Bonjour. Alors c'est Solidaire d'abord, cette émission sur Fréquence 7, pas pareil, différente. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les citoyens. En fait, c'est comment, à un moment, un lâcher dans un barrage, le barrage des Collanges, a pu se faire avec peu d'informations pour les citoyens aux alentours, en tout cas. Et il semblerait que les citoyens ont eu un gros moment émotionnel sur le fait que les choses se sont passées peut-être pas avec une concertation suffisante. Autour de la table, il y a à la fois la FRAPNA, l'association BED, il y a Guillaume Vermorel pour Europe Écologie Les Verts, je ne dis pas de bêtises, et puis Gaëtan Abouzi pour la société de pêche.
Fédération départementale de pêche.
Et voilà, je savais que j'allais faire une bêtise encore. Voilà, alors Gaëtan, vous souhaitiez commencer en fait.
Oui, c'était juste pour faire un petit rappel du contexte des derniers jours, début octobre, de ce qui s'est passé, parce qu'on a été très proche de cet événement-là. On en a été très proche depuis même les dernières années. Car juste avant la réalisation de ces travaux, on a essayé d'empêcher en tout cas cette réalisation de vidange par un recours gracieux auprès de la préfète et puis par un référé liberté donc au tribunal administratif de Lyon sur lequel on a été rebooté.
Lâcher d'eau sur le barrage des Collanges.
Exactement, c'est une vidange du barrage des Collanges, une vidange expérimentale. Donc c'est un protocole expérimental qui a été mis en place par le SDEA et sur lequel nous on s'est arc-bouté pour pas que ça se réalise parce qu'on savait très exactement ce qui allait se passer, en tout cas sur la partie qui nous concerne, c'est-à-dire les poissons, les macro-invertébrés et la rivière et l'usage pêche. Donc on a essayé d'empêcher cela. Et le 2 octobre, la nuit du 2 au 3 octobre, c'est là que la vidange s'est augmentée, parce qu'elle avait déjà commencé un petit peu auparavant, et il y a eu donc un très gros lâcher, une ouverture de la vanne de fond du barrage, qui a du coup conduit à une mortalité très importante des poissons, des macro-invertébrés, des écrevisses, et pollué aussi en aval, donc l'air-lieu, par des métaux lourds. Et c'est ce qui... Enfin, on a été sur le quai-vive. En tout cas, on était sur place le matin même à 6h avec un huissier pour constater tout cela. Alors après, le problème est encore en cours. Ouais. On va justement en parler avec tous les collègues là autour de la table.
Alors vous disiez, il faut arriver à dépassionner le débat parce qu'en fait, oui, il y avait quand même une grosse émotion en se retrouvant face à l'hécatombe.
C'est très important de dépassionner le débat et de rester que sur des choses factuelles parce que quand on se retrouve au bord de l'eau... Peu importe qu'on soit amoureux de la nature, environnementaliste, usager de la nature, quand on voit ce qui s'est passé et qu'on est vraiment au bord de l'eau devant ce cimetière à ciel ouvert de poissons, et encore ça c'est que la chose qu'on voit, parce qu'il y a un impact beaucoup plus important sur la vallée, émotionnellement c'est très dur pour le coup, pour y être dès le matin même, c'était vraiment un choc pour moi, quoi. Donc peu importe quel habitant, quel usager, enfin peu importe qui on est, quelle passion on a, etc. C'est quelque chose qui est très dur à voir et d'en parler, en tout cas de débattre autour de cette problématique-là, il est très important d'enlever l'émotionnel parce que sinon on va pas être dans un bon jugement, quoi.
Alors il y a une enquête en cours et vous avez déposé une plainte.
Hein. Alors nous, la Fédération départementale de pêche, oui, on a déposé une plainte contre X, donc auprès du procureur de Privas. Et donc l'affaire judiciaire est en cours par la gendarmerie donc de Saint-Agrève et l'Office français de la biodiversité.
Là, on est un mois après, hein, puisque...
On est pile poil un mois après.
Ouais, voilà. C'est ça, hein, c'est passé il y a un mois. Alors, il y a l'association BED. Alors, il va falloir nous dire ce que ça veut dire.
Bassin, environnement, développement, la vallée de l'Eyrieux.
D'accord. Et donc, vous, Abed, vous êtes là, présent sur en réaction par rapport à tous ces événements qui se sont faits sur ce barrage, cette construction, etc., la façon dont toute cette chose s'est passée, de façon historique, depuis très longtemps.
Bien sûr. Donc, On est depuis le début de la création du barrage sur le qui-vive, parce que déjà, il y avait des choses qui nous paraissaient pas du tout appropriées. Il est né dans les années 70, l'idée du barrage, pour faire un projet touristique important avec un projet immobilier pour développer. On pensait qu'à cette époque-là, les gros trucs, ça marchait bien pour développer un peu le territoire des Boutières. Donc, il y avait plusieurs usages. Il y avait constitué une réserve d'eau agricole. Il y avait le développement du tourisme, bien sûr, nautisme, etc. Produire de l'électricité. Et puis, voilà, c'était un beau projet. Et son financement a mis 10 ans pour arriver. Il s'est construit. Et ensuite, il y a eu toujours des dysfonctionnements permanents. Il faut dire qu'il s'est construit sur une ancienne décharge de 40 000 mètres cubes qui a été enfouie et qui est toujours sous l'eau. Plus ou moins, il y en reste beaucoup encore. Hein. Tout n'est pas parti, tout est là. Ensuite, ce barrage, il y a eu des études qui ont été faites et cette décharge d'ordures à la fois ménagères et industrielles, puisqu'il y en a des industries assez fortes, avec un impact fort sur les milieux, à savoir qu'il y avait des textiles, il y avait de la bijouterie, il y en a encore un petit peu, mais ça a bien fondu, il y avait tannerie et teinture. Donc là, tout partait dans les rieux au fil de l'eau.
Et ça s'est stocké dans le barrage une fois que le barrage a été fait ?
Alors, bien sûr que le barrage a été construit, ensuite mis en eau. Malgré tout ça, ils ont plus ou moins caché ça avec des bâches goudronnées. Et puis, ça a eu lieu. Ensuite, il y a eu déjà des difficultés. On a remarqué des difficultés sur ce barrage parce qu'il y avait un manque d'oxygénation, il y avait de l'eutrophisation, il y a eu interdiction avec la présence des déchets, interdiction de se baigner dès la troisième ou quatrième année. Déjà, donc le tourisme, c'était terminé. Ensuite, c'était l'époque aussi où on finançait l'arrachage des pêchers. C'était la descente de l'industrie de la pêche, si on peut dire. Donc, deuxième raison, qui était pour irriguer les pêchers, ça a été un peu terminé. Voilà. Puis ensuite, il y a eu un tas d'histoires sur les pré-traitements des industriels, donc qui ne voulaient pas vraiment le faire. Il y avait une obligation de créer des traitements à la sortie des usines. Ça s'est pas fait, ça a coulé encore pendant une bonne douzaine d'années dans les eaux du barrage, avec des produits toxiques, et voilà.
Donc là, on peut imaginer que dans le barrage, il y a ce stock qui petit à petit est allé au fond, sans doute.
C'est ça, la décharge, elle était sur un des bas-côtés. Et puis ensuite, le barrage aussi, on n'a pas vraiment travaillé sur l'évacuation des sédiments, puisque quand la rivière tombe, coule du haut, elle apporte des sédiments impressionnants. Et tous ces sédiments ont recouvert la décharge, ce qui est les eaux font. Enfin là, on ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir, mais il va falloir vraiment faire quelque chose. Voilà, donc sans assainissement, la pollution a continué un moment. Ensuite, il y a eu, là je pourrais peut-être laisser parler monsieur, pour les activités récentes qui ont été menées, notamment les études qui ont été faites pour trouver des solutions, pour rétablir un fonctionnement au mieux normal, enfin, si possible, normal.
Alors, autour de la table, on a aussi Ginès Martinez pour la FRAPNA.
Oui, bonjour.
Donc, vous vouliez...
En fait, si on peut résumer, on va revenir, on va le développer, mais si on peut résumer, ce barrage, le barrage a problème depuis 40 ans, depuis qu'il a été conçu. C'est ça. Il a été conçu sachant qu'il se fait sur une décharge, il a été conçu et érigé alors que pendant 8 ou 9 ans, les déchets, les effluents industriels de ces industries qui étaient beaucoup plus abondantes qu'aujourd'hui sur cette vallée sont déversés. Il se fait également par peut-être aussi une erreur de conception qui est celui de la gestion des sédiments. La gestion des sédiments dans tous les barrages, il y a cela, que ce soit des canaux, des barrages, quelle que soit leur géométrie, de montagne, de plaine, etc. Mais jusqu'aux années 80, ça a été une, je dirais, un angle mort des concepteurs, parce que les obligations et les lâchers, effectivement, qui permettaient d'évacuer ces sédiments n'étaient pas regardés comme on le regarde aujourd'hui. Les impacts étaient très importants. Problème également parce que on a été quelque part tétanisé par l'existence, la connaissance de ce stock de déchets qui est là et qui a amené à ce qu'on n'a pas traité au fil de l'eau, si je peux me permettre, cette question des sédiments, pour donner quelques idées de grandeur. La capacité du barrage, c'est 3,6 millions de mètres cubes. Ce n'est pas un grand barrage, mais c'est un barrage qui est classé A, c'est-à-dire que pour fonctionner, il a besoin d'une autorisation et non pas d'une simple déclaration. C'est-à-dire que le dossier doit être beaucoup plus poussé que, il fonctionne sous l'autorisation d'un arrêté préfectoral. Il a une hauteur de 37 mètres, ce n'est pas un barrage écréteur, n'est-ce pas Michel, on l'a bien dit. Et donc, il remplit ses fonctions hydroélectricité, tourisme, etc. À mesure, effectivement, que les sédiments s'accumulent, ils s'accumulent à peu près à quel flux? Eh bien, il y en a la moitié aujourd'hui de ces 3,6 millions qui est remplie de sédiments. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a 40 000 mètres cubes de sédiments qui arrivent dans le barrage. Et chaque année. Et donc, il a fallu attendre les années 2010 pour dire... Oui, mais enfin, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien assurer la gestion de ce stock et de cette arrivée en permanence de ça. Donc, les premières idées commencent à arriver et ils arrivent vers les années 2012 où le syndicat de rivière commandite une étude dans laquelle on pose le problème et on met déjà sur la table quatre scénarios permettant d'imaginer qu'on va... régler ça.
Comment régler le problème?
Voilà. Ces quatre scénarios sont encore sur la table, puisque les études commanditées à un bureau d'études par le SDEA, donc c'est le syndicat propriétaire du barrage, retient toujours ces quatre scénarios avec des pondérations qui montrent qu'effectivement, il y en a un ou deux qui n'ont pas beaucoup de préférence, en tout cas pour ceux qui sont intéressés directement par l'exploitation. Il y a un qui consiste à augmenter la capacité de transit par les vannes. Il y a une seule vanne. On va y revenir. C'est le premier scénario. Donc, ouais. On a fait le MBI. Voilà. Ensuite, c'est le traitement un peu plus classique des sédiments, c'est-à-dire qu'on va les enlever soit mécaniquement, soit par hydropompage, soit on va l'effacer, c'est-à-dire on détruit le barrage de nouveau à une rivière libre. Et l'autre qui... Je ne sais pas pourquoi il est toujours là. C'est un abaissement du niveau du barrage, ce qui ne satisfait aucune des conditions. Ce qui semble être, mais encore une fois, comme il n'y a pas eu de concertation à ce niveau-là, être la préférence de ceux qui font la gestion de ce barrage, c'est celui d'augmenter le nombre de vannes, de façon à donner de la capacité lors d'une chasse pour que les sédiments s'en aillent. Donc, on arrive à demander une autorisation de faire cette expérience qui est accordée par la préfecture à travers un arrêté préfectoral. Et cet arrêté prévoit préalablement à ça, excusez-moi, j'ai loupé une étape parce qu'en 2022, la préfecture demande à ce que soit étudié pendant 2 ans et en large concertation des scénarios pour traiter le problème. Et puis ensuite donne 3 années supplémentaires pour régler, pour faire l'opération que l'on aura retenue.
Une fois qu'on aura les éléments d'étude.
Voilà. Hein? Et là, on se retrouve avec un calendrier qui, en 18 mois, fait la concertation... fait l'étude et fait l'expérimentation.
Et il y a eu une vraie concertation?
Non. Nous avons compris que l'expérimentation, il y a eu effectivement une ou deux réunions au départ, et puis ensuite, ça s'est fait dans une concertation beaucoup plus étroite, dont nous n'avons pas été d'AFRAP, ni BED, semble-t-il. En fait, on constate que cette expérimentation se fait sans précaution. Ça, pour moi, c'est très surprenant, parce que quand on expérimente, on est sur la nature, on est sur la vie de cette rivière, on est également sur l'émotion et des populations qui sont autour de ce barrage-là, dans cette vallée-là, et donc on prend des précautions, ne serait-ce que, par exemple, faire une pêche de précaution pour enlever les poissons et les traiter. On ne fait pas non plus, si vous voulez, une analyse de comment font les autres opérateurs pour traiter les sédiments. L'état de l'art, il se constitue sur l'expérience. Donc, moi, je n'ai pas vu, j'ai vu des choses très sommaires dans les rapports d'études à ce niveau-là. Et puis ensuite, je ne suis pas certain qu'effectivement, on ait pu mener le protocole qui avait été autorisé en le contrôlant jusqu'au bout. Parce qu'en fait, les problèmes sont arrivés très soudainement les deux derniers jours, le 2 et le 3, parce qu'effectivement, on arrive à un assèchement, la vanne est, si vous voulez, submergé par un torrent de boue et arrive ce que notre collègue de la Fédération de la pêche a constaté.
Tout ça, cette décision se prend au niveau de la SDEA. SDEA qui est pilotée par Olivier Amran, qui est donc le président du conseil départemental. La SDEA, syndicat développement, équipement, aménagement, qui a quelques missions. Ses missions, c'est de s'occuper de l'eau, de l'étiage, donc du moment où il y a de moins en moins d'eau en été, de s'occuper de l'irrigation, de l'eau potable. Normalement, la SDEA aussi est sur l'économie et sur l'aménagement du territoire. Et alors, on peut se poser la question si tout le monde est respecté dans l'histoire, c'est-à-dire est-ce que les riverains sont aussi respectés que les agriculteurs. Enfin bon, il y a plein de questions qui peuvent se poser autour. Et alors, qu'est-ce qu'en pense Écologie Les Verts?
Alors, je vais vous apporter une lecture plus politique. C'est mon rôle. On fait de l'écologie politique, donc du coup, c'est l'analyse que nous en faisons nous. Effectivement, on constate tous les problèmes qu'il y a sur ce barrage depuis son origine, depuis même sa conception, les années 70, et sa fabrication dans les années 80. En réalité, ce barrage n'aurait pas dû être là. Il n'aurait pas dû être fait. Alors, à l'époque, on avait un autre logiciel. Mais malheureusement, c'était une erreur de le construire pour tout ce qui a été dit, le problème des sédiments, le problème de la pollution qu'il y avait déjà avant et qui a continué à être faite, le problème de l'utilité économique qui n'a jamais été faite et ni même qui aurait peut-être pas pu être faite même si l'eau avait été baignable. Et donc du coup, ce barrage qui malgré tout a été construit est une source de problème. Et aujourd'hui, on a le président du SDEA, donc Olivier Amran, qui est en même temps le président de notre département en Ardèche, qui a choisi son camp. Pour nous, écologistes, on pense que Olivier Amran n'aime pas l'écologie. En réalité, c'est un élu de droite qui a fait des discours anti-écolo depuis son accession au pouvoir. Il préfère clairement les chasseurs, il préfère. Voilà, il fait une politique de droite, je ne sais pas si on peut dire qu'il copie Trump, mais en tout cas, il n'aime pas beaucoup l'environnement et ni même l'Ardèche, et peut-être pas non plus vraiment les Ardéchois, vu ce qu'il a pris comme décision. Alors du coup, lui, il a sur ce problème, il a réagi très vite, il a un peu roulé des mécaniques, il a choisi le camp des arboriculteurs, en tout cas les quelques arboriculteurs qui auraient pu utiliser l'eau pour l'irrigation, en sachant que du coup, comme le barrage était plein de sédiments, il fallait les évacuer pour pouvoir avoir de l'eau pendant l'été, même si c'est pas du tout démontré. Comme ça a été dit, l'irrigation c'est plus vraiment nécessaire parce que les vergers ont diminué, parce que du coup on peut faire du goutte à goutte, parce qu'il faut faire des économies d'eau, etc. Et donc du coup il a décidé de vidanger le barrage, de prendre la décision lui-même, de demander l'accord de la préfète de l'Ardèche, et il a fait ce lâcher d'eau et bien sûr de tous les polluants, de tous les métaux lourds qu'il y avait dans ce barrage. Et pour nous ça a été catastrophique, mais en même temps ça lui ressemble, c'est quelqu'un qui du coup prend des décisions un peu trop rapidement, qui s'en fiche des 25 km de linéaires qui ont été pollués en aval. En même temps ça l'intéresse d'être identifié comme quelqu'un qui agit pour l'agriculture, parce que en plus d'être président de l'Ardèche et du SDEA, il est aussi vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l'agriculture. Et donc du coup, il a plutôt essayé de défendre le lobby des agriculteurs, entre guillemets, qui font partie de son électorat. Je pense à la FNSEA, FDSEA, les jeunes agriculteurs. C'est pas le cas de la Confédération paysanne qui était absolument contre ce barrage et son lâcher. Et voilà, donc c'est une décision politique
Je me permets juste de t'interrompre quelques secondes parce que il y a quelque chose qui se passe au niveau de la Chambre d'agriculture. Il va y avoir les élections qui vont avoir lieu dans trois mois, deux mois, en janvier. Donc effectivement, il y a un enjeu aussi là quand même.
Il y a une portée politique. À cet acte, et puis du coup, voilà, il défend une branche de l'agriculture qui peine aujourd'hui à encore conquérir de nouveaux électeurs. Ce syndicat agricole, on voit qu'il est à la peine, et donc du coup, à un moment, il le soutient, il se soutient aussi lui-même en essayant de prendre des décisions qui malheureusement ne conviennent à personne, parce que je pense qu'en réalité, même les arboriculteurs qui auraient pu voter pour M. Amran ou les électeurs de droite qui votent Amran, ils sont quand même stupéfaits de voir les dégâts qui ont été faits sur l'environnement et sur l'image de marque de l'Ardèche. Après, comment vendre des pêches de la vallée de l'Eyrieux quand on voit la pollution de l'eau? Enfin, pour moi, c'est un peu tuer ou scier la branche sur laquelle on est assis, ou tuer la poule aux œufs d'or quand on est arboriculteur.
Moi, ce qui me pose question, c'est le fait qu'il n'y ait pas plus de consultations, parce qu'apparemment, dans ce que vous disiez tout à l'heure sur la fédération de pêche, il me semble, peu d'informations, les gens ont été peu au courant, et il y a une commission que voudrait voir BED voudrait voir une commission se mettre en place, mais déjà au niveau de la fédération de pêche, alors la concertation s'est passée, c'est pas passé, vous étiez au courant, vous n'étiez pas au courant?
Bien sûr qu'on était au courant au niveau de la fédération. On a fait partie de la concertation. On a émis de nombreux avis, qui étaient les mêmes que nos arguments qu'on a déposés au tribunal administratif, qui n'ont pas été pris en compte. Mais on a fait partie de cette concertation. C'est pas le cas de nombreux autres acteurs défenseurs de l'environnement, que ce soit BED, la FRAPNA, même le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, qui est gestionnaire de Natura 2000 sur le secteur, n'a pas été concerté. On voit aussi que l'ensemble des élus de la vallée, les maires, n'ont pas été au courant. Enfin voilà, il y a un vrai manque de communication et de concertation. Alors après là, c'est la partie politique. Nous, on est vraiment dans la partie factuelle. On a présenté nos arguments, ils n'ont pas été retenus. Preuve du contraire, ils auraient peut-être dû retenir nos arguments.
Dominique Alix, pour le parc naturel régional, dit que normalement l'engagement se passe entre l'État et les territoires. Et si on veut qu'il y ait une charte qui soit respectée, il faudrait peut-être respecter la charte, quoi. Ça va jusque là, quoi. Alors cette commission BED.
Disons qu'on a demandé à la préfète de mettre en place une véritable concertation sur l'ensemble des avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit associatifs, institutionnels et autres, pour arriver à non seulement être concerté et entendu, mais pour aller jusqu'à la décision. C'est-à-dire qu'on doit être associé en tant que citoyen. Nous sommes une association qui défendons l'environnement et qui sommes très impliqués sur le bassin versant de l'Eyrieux. On a toujours fait ces travaux avec des scientifiques et on a vraiment beaucoup travaillé.
Sérieusement, quoi.
Depuis 40 ans, on travaille. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne soit plus entendu. Nous avons des spécialistes quand même, scientifiques et techniques. Et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas entendu et qu'on ne puisse pas participer, d'une part, aux discussions et aux échanges pour trouver une vraie solution, et d'autre part pour être décideur en même temps que l'ensemble des autres parties prenantes.
Moi, je ne suis pas en train de chercher à faire le procès d'Olivier Amran ou qui que ce soit, mais je dis seulement, quand on met un bulletin de vote dans l'urne, ça peut avoir des conséquences même sur ce qui est juste à côté de chez nous, quoi, quand même. C'est ça qui se passe, là. Bon, parce que c'est quand même grave, là. Moi, je vois cette commission dont vous voudriez qu'elle se monte. Il y a plein de signataires, alors c'est à la fois la FRAPNA, évidemment, mais c'est votre association, c'est la Passerelle des Vallées, le comité départemental canoë-kayak, la Confédération Paysanne, évidemment, la Compagnie des Archers, la Célisienne, la Société Odonatologie. Alors, en fait,
c'est les libellules.
Donc, il y en a plusieurs, il y a l'OFCE, les Amis du Talaron, la Belle Vie de Saint-Michel de Chabrienou, la fourmière, enfin au cœur de Chalencon. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en jeu. Alors, qu'est-ce qu'en dit un politique ?
Ben, un politique, il est élu par un électorat. Je pense que l'électorat de M. Amran n'est pas forcément dans les associations que vous avez citées. Du coup, lui, il défend une autre vision de la protection de l'environnement. Voilà, c'est pas celle que nous, on partage. En même temps, le conseiller départemental du canton, il est du côté de M. Amran, donc on l'entend pas trop non plus. C'est quand même surprenant. Enfin, vu l'impact de la pollution de ce lâcher de sédiments, enfin pour moi, il y aurait besoin de s'exprimer là-dessus.
Voilà, bon, la FRAPNA, désastre écologique.
Écologique. Bon, on n'est pas sur Tchernobyl, certes. Ouais. Mais la vallée, elle est quand même bien abîmée et pour longtemps. Ce que l'on pourra retenir, c'est que le problème reste entier.
Oui, le problème reste entier.
Le problème n'est pas résolu. Et donc, il faudra bien effectivement se mettre autour de la table pour essayer d'éviter ce type d'erreur et partager l'eau. L'eau, elle appartient à tout le monde. Et on n'est pas à opposer les uns aux autres sur cette question-là. C'est un bien public.
Excusez-moi Sylvain, on a débordé un petit peu. Merci beaucoup, c'était passionnant et évidemment on n'a pas fini le problème là. On n'est pas allé au bout. Au revoir.
Merci.
Au revoir tout le monde.